24h à Paris, 2h en temps universel. Vous êtes bien à l'écoute de la Radio du Monde.
Antoine Gallen.
À la une, l'environnement, sujet mis de côté pendant la campagne des élections législatives au Canada. Au programme, l'économie, et ce, à cause des menaces de Donald Trump. Élection pourtant historique ce lundi, vous l'entendrez. L'Iran sous le choc après l'explosion du plus grand port commercial du pays. Le bilan monte à 40 morts et plus de 1000 blessés. L'origine du drame n'est pas encore confirmée. Et puis, l'Organisation de libération de la Palestine connaît désormais le nom de son vice-président. Il s'agit d'Hussein El-Shir. Les détails sur son profil à suivre. Les Canadiens appelés aux urnes ce lundi des élections législatives dans un contexte particulier car Donald Trump continue de s'attaquer aux pays voisins. En cause, ses droits de douane mais aussi sa volonté d'annexion du Canada. Et cela a eu des conséquences car ces sujets ont pris une telle place dans la campagne que l'environnement a été relégué au second plan. Les précisions d'Igor Strauss.
À la question « faut-il produire plus de pétrole ?» posée lors d'un débat télévisé, le chef libéral McCarney et le chef conservateur Pierre Poilievre ont répondu oui. Près de 10 ans après la signature de l'accord de Paris et malgré les avertissements sans équivoque des scientifiques, la crise climatique a été en bonne partie évacuée du débat public au Canada. Pourtant, il y a quelques années à peine, il était presque impensable pour un parti politique de se présenter en campagne électorale sans programme environnemental. Mais aujourd'hui, la donne a changé alors que le Canada a connu une succession de phénomènes climatiques extrêmes, comme les incendies au Québec ou l'ouragan Debby, qui ont coûté plus de 8 milliards de dollars aux assurances. En misant sur les énergies fossiles, le Canada, quatrième exportateur mondial de pétrole et de gaz, risque de contribuer à l'aggravation de la crise climatique pour les prochaines décennies, et ce alors que l'Agence internationale de l'énergie a prévenu dès 2021 que pour l'avenir de notre planète, il fallait arrêter d'investir dans les énergies fossiles.
Des élections législatives qui se déroulent dans un contexte dramatique, samedi soir, une voiture a foncé dans la foule. Bilan, au moins 11 morts et des dizaines de blessés. L'attaque a visé un festival de la communauté philippine à Vancouver. L'assaillant a été inculpé de 8 meurtres. Il souffrirait de problèmes de santé mentale selon la police. Nous sommes proches d'un accord, mais pas assez proches. Déclaration ce dimanche du secrétaire d'État américain Marco Rubio au sujet de l'Ukraine. Washington prédit une semaine cruciale pour les négociations de paix entre Kiev et Moscou. Ce dimanche, Donald Trump dit croire que Volodymyr Zelensky serait prêt à renoncer à la Crimée. Sur le front, le président ukrainien a assuré que son armée poursuivait les combats dans la région de Koursk, tout en réfutant l'annonce de sa libération par Moscou. Les flammes continuent de ravager l'Iran. Explosion meurtrière ce dimanche depuis dans le plus grand port commercial du pays. Le bilan monte à 40 morts et plus de 1000 blessés. Le président iranien Massoud Pezeshkian a ordonné l'ouverture d'une enquête. Une explosion dont la cause reste inconnue dans un port où passent près de 85% des marchandises du pays. Correspondance de Siavosh Ghazi à Téhéran.
Le port Shahid Rajaei est le principal port du pays avec celui de l'imam Khomeini, par où transite une très importante part des importations et des exportations du pays. Selon certains chiffres, 60% des produits importés transitent par le port Shahid Rajaei. De nombreux produits transitent par ce port, notamment destinés à l'industrie et l'agriculture du pays. Les nombreuses explosions provoquaient un immense fossé et endommageaient de nombreux bâtiments et voitures dans un rayon de plusieurs kilomètres. Signe important de l'importance de l'accident, la bourse de Téhéran est passée dans le rouge et la monnaie iranienne a perdu 2% de sa valeur face au dollar et à l'euro alors qu'elle était en hausse depuis plusieurs semaines à cause des négociations avec les États-Unis sur le dossier nucléaire. La crainte d'une attaque israélienne ou américaine contre les installations portuaires en cas d'échec des négociations nucléaires avec les États-Unis est dans tous les esprits. Une telle attaque pourrait perturber l'ensemble de l'économie iranienne qui dépend fortement des importations de divers produits. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
L'Iran et son nucléaire qui inquiètent Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien exhorte à démanteler les infrastructures du programme nucléaire de Téhéran. Appel lancé au lendemain d'un troisième cycle de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. au moins 50 morts à Gaza dans des frappes israéliennes selon les secouristes de la défense civile palestinienne. Ce dimanche, le ministère de la Santé du Hamas a revu à la hausse son bilan provisoire de la guerre dans l'enclave. Le nombre de morts s'élève à 52 243 Gazaouis depuis le 7 octobre 2023. La Cour internationale de justice va ouvrir ce lundi une semaine d'audience consacrée aux obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens. Et ce, plus de 50 jours après l'instauration d'un blocus total sur l'aide entrant dans la bande de Gaza. Washington dit avoir frappé 800 cibles au Yémen depuis mi-mars. Des attaques qui ont tué des centaines de Houthis, ces rebelles yéménites pro-Iran. Ce dimanche, des médias Houthis annoncent la mort de 8 personnes dans des frappes américaines sur la capitale Sanaa. RFI 7h35 à New Delhi. La tension monte entre l'Inde et le Pakistan. En cause, cette fusillade meurtrière du 22 avril dans le Cachemire indien qui a coûté la vie à 26 civils. New Delhi accuse Islamabad de terrorisme transfrontalier et a annoncé une série de représailles comme la suspension des visas pakistanais et l'annulation de ceux en cours d'ici au 29 avril. Un déracinement brutal pour ceux qui, comme Tufail, ont leur cœur partagé entre les deux pays. Témoignage recueilli par Léa Oujal.
Tufail, 72 ans, est pakistanais. Mais son histoire commence en Inde, dans un petit village du Nord. Il vit à Karachi, au Pakistan, depuis des années et il continue à revenir souvent en Inde, retrouver ses amis et se recueillir sur la tombe de son père. Mais son dernier retour à Karachi a été laborieux.
Je suis très fatigué. Le voyage a été long. J'ai dû attendre 4 heures à l'aéroport de Delhi, puis 5 heures à Dubaï avant d'arriver enfin dans mon village au Pakistan, après un long périple.
Depuis l'escalade des tensions entre l'Inde et le Pakistan, Tufail se sent triste et espère pouvoir revenir régulièrement dans son pays de cœur.
Si Dieu le veut, je souhaiterais vraiment revenir si j'obtiens le visa. Mon père et mon grand-père sont enterrés en Inde. Mon village ancestral se trouve également en Inde.
Parmi les autres mesures, New Delhi a annoncé suspendre son traité encadrant le partage des eaux du fleuve Indus avec le Pakistan, une première depuis sa signature en 1960. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
Ça y est, le nom du vice-président de l'Organisation de Libération de la Palestine est tombé. Il s'agit d'Hussein El-Shir. Le numéro 2 va épauler officiellement Mahmoud Abbas, en poste depuis plus de 20 ans. Alors qui est-il et pourquoi cette désignation maintenant? Élément de réponse avec Amira Souilem à Ramallah.
Du haut de ses 64 ans, Hussein El-Shir semble apporter un vent de jeunesse à l'OLP. Un quart de siècle plus jeune que Mahmoud Abbas, le vice-président de l'OLP n'est pas un inconnu. Proche conseiller du président de l'OLP, Hussein El-Shir a passé 10 ans dans les prisons israéliennes. Lui qui a appris l'hébreu en détention était chargé jusqu'ici des questions sécuritaires ainsi que d'un comité supervisant les missions diplomatiques palestiniennes à l'étranger. Cette nomination intervient alors que l'Union européenne et la Ligue arabe pressaient Mahmoud Abbas d'entamer des réformes en vue du rôle que l'autorité palestinienne pourrait jouer dans l'hypothétique après Hamas à Gaza. La semaine dernière, les Européens avaient justement conditionné leur aide d'1,6 milliard d'euros à une ouverture politique. La désignation d'un vice-président de l'OLP sans passer par un vote sera probablement insuffisante pour renouer la confiance à l'international, d'autant que le contexte interne est de plus en plus tendu. Mahmoud Abbas fait face à un discrédit grandissant au sein de la population de Cisjordanie occupée qu'il administre. Avec des finances asséchées et totalement dépendantes des transferts que Tel Aviv accepte de laisser passer, l'autorité palestinienne, qui collabore avec les forces israéliennes dans les camps de réfugiés palestiniens, a perdu la confiance de son propre peuple. Amira Sulem, Ramallah, RFI.
En France, vague d'émotion lors de la marche blanche en souvenir d'Aboubacar Cissé, ce jeune malien d'une vingtaine d'années tué ce vendredi dans une mosquée du Gard dans le sud de la France. Près de 2000 personnes étaient présentes. Son assassin est toujours en fuite. La piste d'un acte islamophobe est privilégiée par les enquêteurs. Le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France. Les mots du président français Emmanuel Macron sur X. À Rome, au moins 25 000 personnes personnes ont défilé ce dimanche pour se recueillir devant la tombe du pape François. Sur la place Saint-Pierre, une messe s'est déroulée au lendemain de ses funérailles. Et puis avant de refermer ce journal, quelques mots de football. En Angleterre, après une victoire contre Tottenham 5-1, Liverpool est sacré champion. 20e titre en championnat pour les Reds, qui égale le record de Manchester United. Un succès avec la manière, puisqu'ils devancent leur dauphin Arsenal avec 15 points d'avance à 4 journées de la fin du championnat. En France, l'Olympique de Marseille s'impose 4-1 face à Brest. Et pour l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais, ça ne passe pas. Défaite 4-1 contre Arsenal en demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Les Anglaises retrouveront le FC Barcelone en finale.